Imaginez un peu la scène. Des poules heureuses qui picorent dans une belle prairie bien verte.
Oui, l'herbe est grasse, le sol est plein de vie. C'est l'image idéale.
Exactement, c'est l'image qu'on a tous en tête. Mais bon, pour quiconque a un petit poulailler, surtout en ville, la réalité est souvent bien différente.
Ah oui, l'été arrive et le petit parcours, il se transforme vite en une sorte de désert. C'est ça, un sol sec, dur, craquelé. Et là, une question très concrète se pose. Comment on fait pour que nos poules trouvent leur dose de protéines, qui est si essentielle, quand le sol, ben, il n'offre plus rien? Et c'est une question de fond, parce qu'on a tendance à l'oublier. Les insectes, les vers, ce ne sont pas juste des friandises.
Non, c'est plus que ça. L'article qu'on analyse aujourd'hui du blog Poulailler Bio le dit très bien. C'est une part indispensable de leur équilibre alimentaire. C'est cet apport en protéines qui fait la différence. Les céréales seules, ça ne suffit pas, bien sûr.
On parle de bien-être, évidemment, mais aussi de leur permettre d'avoir un comportement naturel, gratter, chercher, chasser un peu leur nourriture.
Absolument, c'est au cœur de ce qu'est une poule en fait. Notre mission aujourd'hui, en plongeant dans cette source, c'est d'explorer les solutions pré-pratiques qu'elle propose. On va décortiquer des astuces, accessibles à tous, même dans un petit espace.
Et on va voir comment une approche toute simple peut avoir un double bénéfice.
Oui, pour les animaux, mais aussi, et c'est là que ça devient malin, pour le jardin. Alors, l'article part de ce constat, le parcours est sec, plus rien à manger. Et face à ça, l'auteur propose une solution qu'il appelle un piège à insectes.
Le mot est un peu fort, c'est vrai.
Oui, parce qu'en réalité, c'est une idée incroyablement douce, très écologique. Alors, comment ça marche en pratique?
En fait, c'est plus une invitation qu'un piège. L'idée, ce n'est pas d'appâter, mais de recréer un micro-habitat. Une sorte de petite oasis.
D'accord.
Et la méthode est d'une simplicité, désarmante. L'article explique qu'il faut choisir deux ou trois endroits dans l'enclos.
Plutôt sur les côtés, j'imagine, pour pas que ça soit en plein milieu.
Oui, voilà, pour ne pas gêner. Et là, on étale une couche bien épaisse de matière organique.
Du genre ?
Tons de gazon fraîche, des feuilles mortes, des fans de légumes, du potager. Tout ce qui est frais et va commencer à se décomposer.
Ok. Donc ça, c'est la base, le garde-mange.
Ouais.
Et après ?
Après, l'étape cruciale, l'eau. On arrose généreusement ce tas. Et pour garder cette humidité et créer de l'obscurité, on couvre le tout avec de grosses tuiles, des planches de bois, n'importe quoi qui fasse un abri sombre et frais.
Exactement. Le secret, c'est de maintenir cette humidité. Du coup, en plein été, il faut penser à arroser de temps en temps.
D'accord. Donc, on crée un îlot de fraîcheur. Et qu'est-ce qui se passe sous ces planches ?
Ah, c'est là que la magie opère. Ce qui est fascinant, c'est le principe écologique qu'on met en œuvre, presque sans s'en rendre compte.
On crée un microclimat, en fait. C'est tout à fait ça. Autour, le sol est sec, chaud, et sous les planches, c'est frais, humide, sombre. C'est un appel irrésistible pour toute la petite faune du sol, qui cherche à fuir la chaleur.
Les cloportes, les vers, les limaces...
Oui, les petits escargots, toute une chaîne alimentaire vient s'installer là, sous cet abri providentiel. Et le résultat, d'après l'auteur, est assez spectaculaire. Il parle d'une myriade d'insectes. J'imagine bien la scène. On soulève une planche et c'est un buffet à volonté pour les poules. C'est exactement ça.
C'est quand même incroyable de se dire qu'on peut générer autant de vie avec juste un peu d'herbe et d'eau. L'article conseille d'ailleurs d'en avoir deux ou trois pour faire une rotation.
Oui. Pendant que les poules nettoient le premier, les autres se repeuplent tranquillement.
C'est malin. Et c'est là qu'on en vient au double avantage, qui est pour moi le point le plus intelligent de la démarche. Le premier bénéfice, il est évident. Un apport nutritionnel gratuit pour les poules, et elles retrouvent le plaisir de gratter, de chasser, c'est bon pour leur morale.
Absolument. Mais le deuxième bénéfice, il est pour le jardinier.
Ah oui, le fameux chicken mulch.
Précisément. Une fois que les poules ont bien tout retourné, gratté, aéré ce paillis...
Elles y ont aussi ajouté leur fiente, j'imagine.
Voilà. Et leurs fientes sont très riches en azote. Du coup, le résidu est complètement transformé. Ce n'est plus un tas de feuilles mortes, c'est un amendement de très haute qualité. Un compost de surface ultra riche.
Et il n'y a plus qu'à le mettre au potager.
On le récolte à la pelle et on l'étale au pied des légumes.
Attends, mais concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Ce paillis, ça a été un refuge pour des limaces, des escargots. On ne risque pas d'importer ces nuisibles directement dans le potager?
C'est une excellente question. Et c'est là que l'intelligence du système est totale. Qui sont les meilleurs prédateurs des limaces dans un jardin ?
Les poules.
Exactement. En se servant au buffet, elles ont déjà fait 90% du travail de régulation. Elles auront mangé la majorité des mollusques et des larves. Le peu qui reste, bon, ce sera bien moins problématique.
Ah, d'accord. Donc les poules agissent comme un filtre sanitaire, en quelque sorte. C'est ça. On est dans un exemple parfait de petite économie circulaire. Les déchets du jardin nourrissent les insectes, qui nourrissent les poules, qui, elles, nourrissent et protègent le jardin. La boucle est bouclée. C'est brillant. On part d'un problème, un sol nu, et on arrive à une double solution. Mais l'article ne s'arrête pas là. Il explore aussi d'autres pistes en faisant un petit détour par le passé. Il mentionne les verminières d'autrefois.
Oui, et c'est intéressant de voir comment notre regard sur ces pratiques a changé. La verminière, c'était un trou rempli de fumier, de déchets, où on élevait des vers.
Pour la pêche ou pour les volailles ?
Voilà. L'auteur qualifie cette méthode d'inconcevable aujourd'hui, surtout en lotissement. On imagine mal expliquer ça à ses voisins.
C'est clair. Ça montre que nos pratiques s'adaptent à notre environnement, à nos sensibilités.
Tout à fait. Et en opposition, il présente des solutions plus modernes. Le lombricompostage, par exemple.
Ah oui, beaucoup de gens en ont un dans leur cuisine, pour gérer les déchets.
Eh bien, l'article suggère simplement de prélever une partie des vers, qui s'y développent à une vitesse folle, pour les donner aux poules. C'est une version moderne de la verminière, mais en plus propre et contenue.
D'accord. Et pour ceux qui ont un composteur classique ?
L'idée, c'est ce que l'auteur appelle joliment sacrifier quelques pelletés de compost bien mûrs et grouillants de vie. C'est un don aux poules. Et en échange, elles fournissent de la poulenée, leur fiente, qui est un super activateur de compost.
C'est un échange de bons procédés. Exactement. Et il termine sur une stratégie à plus long terme. Planter une haie variée autour du poulailler. C'est plus lent, mais une haie, c'est un écosystème en soi qui va attirer naturellement plein d'insectes. Toutes ces idées sont excellentes. Mais c'est souvent dans les commentaires des lecteurs que la discussion devient vraiment vivante. Et là, on quitte le jardinage pour entrer dans un autre monde. L'élevage d'insectes à domicile.
Oui, il y a ce commentaire d'un utilisateur, Hull. Il est très direct. Très bonne astuce, mais je suis passé à la vitesse supérieure. J'élève mes ténébrions. Les ténébrions, ce sont les insectes qui donnent les vers de farine. Et ce commentaire est fascinant parce que c'est un changement complet de paradigme. On n'est plus dans l'idée de recréer un milieu naturel, on est dans la production contrôlée de protéines.
C'est une approche beaucoup plus technique, oui, presque agronomique, et elle est très convaincante. C'est facile, ça ne sent rien, ça ne prend pas de place, ça ne coûte presque rien. C'est l'efficacité maximale. Mais ce qui est passionnant, c'est que quelques commentaires plus loin, on a une réaction complètement opposée.
La réaction de Berthet, oui. Elle écrit « Élever des ténébrions dans un poulailler me semble un peu effrayant. » Et là, on a deux mondes qui s'affrontent. Cette divergence, elle est extrêmement révélatrice. Je dois avouer que, personnellement, l'idée d'avoir une boîte de ténébrions qui grouille chez moi...
Moi non plus, ça ne me tente pas vraiment.
Je suis plutôt du côté de Berthet sur ce coup-là, même si je comprends la logique de elle.
Et c'est ça qui est intéressant. Ça montre qu'au-delà de la faisabilité, il y a des barrières psychologiques, culturelles. Pour elle, c'est une solution logique, évidente. Pour Berthe et pour nous, visiblement, l'idée même est dérangeante. Le rapport à l'insecte n'est pas du tout le même pour tout le monde.
Ça nous rappelle qu'il n'y a pas une seule bonne solution, mais des solutions adaptées à la sensibilité de chacun.
Et cette idée de sensibilité, de barrière, ça nous amène au problème le plus complexe soulevé dans les sources. On quitte la technique pour entrer dans la psychologie animale avec le commentaire d'Olivier Berger. C'est un vrai cas d'école.
Ah oui, son histoire est folle.
Il explique qu'il a récupéré des poules d'un autre élevage et elles ne mangent pas de vers de terre. Comment c'est possible ? Une poule qui n'aime pas les vers, c'est comme un chat qui n'aime pas les souris, ça paraît contre nature.
C'est déroutant. Il dit qu'il leur en met sous le bec, mais elle les regarde sans y toucher.
Avec indifférence. Et ça soulève une question essentielle sur le comportement acquis. La première réponse du blog est très optimiste, un peu passe-partout. Laissez-les faire, elles vont très vite apprendre. Le genre de réponse qui rassure et qu'on a envie de croire.
Sauf que la réalité est plus têtue. Oui, parce qu'Olivier revient quelques jours plus tard et sa réponse est sans appel. Malheureusement, ça ne marche pas. Le blocage est réel. Elle ne s'y intéresse toujours pas. Et cette situation illustre parfaitement le fait que le comportement alimentaire n'est pas purement instinctif. Il est en très grande partie appris.
Ah, d'accord.
Des poules élevées dans un environnement industriel, stérile, avec juste des granulés comme nourriture, peuvent tout simplement ne pas reconnaître un ver de terre comme étant de la nourriture.
L'instinct de picorer est là, mais elles ne savent pas quoi picorer.
C'est ça. L'identification de la proie, la connaissance de ce qui est bon, ça a été effacé. C'est une forme de déconnexion culturelle au sein de l'espèce. Et ce qui est poignant, c'est qu'Olivier comprend l'enjeu. Il ne s'inquiète pas juste pour ses poules, il écrit « En plus, elles vont commencer à couver leurs futurs poussins. Si elles n'apprennent pas vite, elles ne donneront pas le bon exemple. » C'est incroyable, il pense déjà à la génération d'après. Il a compris que la transmission du savoir se fait de la mère aux poussins.
Il a tout saisi. Si ces poules ne savent pas manger de verre, elles n'apprendront jamais à leurs poussins à le faire.
Et c'est toute une lignée qui risque de perdre ce comportement. On est très loin de la petite astuce de jardinage, là. On parle de culture animale, de transmission.
Alors, comment on fait dans un cas comme ça?
Théoriquement, il faudrait une poule professeur. Une poule plus âgée, élevée à l'ancienne, qui leur montrerait l'exemple. Mais ce n'est pas toujours possible. Ça montre le décalage entre une solution simple sur le papier et la complexité du vivant.
Absolument. Et pour finir sur ces défis, il y a une autre question, très pragmatique, posée par une certaine Madeleine Coulombe, qui reste sans réponse.
Combien une poule mange d'insectes par jour?
Oui. On pourrait penser que c'est simple, mais personne ne répond.
Parce que c'est une question incroyablement compliquée. Ça dépend de la race, de l'âge, de la saison, du reste de l'alimentation. Donner un chiffre serait malhonnête.
Je vois.
Mais cette question montre bien les limites. L'article est excellent pour le comment faire, pour l'inspiration, mais il ne peut pas fournir toutes les données quantitatives qui permettraient de calibrer précisément ces efforts. On reste dans l'empirique.
On a un article formidable, un guide pratique, ingénieux, écologique. Et de l'autre, les commentaires des lecteurs qui viennent fissurer cette belle image.
Oui, il nous ramène à la réalité du terrain qui est bien plus complexe.
Et il soulève des questions beaucoup plus profondes sur le comportement animal, l'apprentissage et même sur nos propres barrières culturelles.
C'est la synthèse parfaite. Les points essentiels à retenir, c'est d'abord l'importance vitale des protéines d'insectes. C'est non négociable. Ensuite, c'est l'ingéniosité des solutions low-tech, comme ce piège à humidité, qui prouve qu'on peut faire beaucoup avec très peu.
En observant simplement la nature?
Exactement. Et enfin, il y a cette vision d'un système intégré où les poules, le jardin, les déchets, tout travaille ensemble dans une boucle vertueuse. C'est une approche très puissante. Et pour finir, je voudrais proposer une pensée pour aller plus loin. Une question qui me taraude depuis que j'ai lu le commentaire d'Olivier. La source nous a montré comment fournir de la nourriture à nos poules, avec des astuces très intelligentes, mais le problème d'Olivier nous force à réfléchir à un autre niveau, celui de la culture de notre petit cheptel.
Je vois où tu veux en venir. La question, c'est, en tant qu'éleveur amateur, notre rôle se limite-t-il à être des simples fournisseurs de nourriture et d'un abri? Ou est-ce qu'on a aussi une part de responsabilité dans la conservation et parfois la réacquisition des savoirs et des comportements naturels au sein de cette petite société animale qu'on héberge?
C'est une excellente question.
Peut-être que notre rôle, ce n'est pas seulement de nourrir, mais aussi d'être des passeurs de culture pour nos propres animaux.